Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Le studio Biloba présente le meilleur résumé, la littérature au creux de l'oreille. Dans cet épisode, découvrez La peau de chagrin de Balzac.
Nous sommes à Paris en octobre 1830. Un jeune homme pénètre dans une maison de jeu située dans les jardins du Palais Royal. On ignore encore qu'il s'appelle Raphaël de Valentin et qu'il est ruiné. Clairement, il n'a pas l'habitude. Aucune tactique, il mise tout sur la chance et perd. Il sort la tête haute de la salle de jeu, mais dans son esprit, il est au plus bas. Il veut en finir avec la vie. Il longe la Seine avec l'idée d'y plonger pour se noyer. Mais à la réflexion, faire cela en plein jour le rebute. Il préfère attendre la nuit. Son errance le mène quai Voltaire. Là, il entre dans un magasin d'antiquités pour passer le temps. Et c'est plutôt réussi. Cet endroit se révèle être une véritable caverne d'Ali Baba. Des tableaux de peintres célèbres, des vestiges de civilisations oubliées, des bibelots étranges. Le jeune homme se perd dans l'admiration de tous ces trésors amassés sur plusieurs étages. Soudain, un petit vieillard surgit sans un bruit, muni d'une lampe. C'est l'antiquaire, en personne. Malgré son allure intimidante et mystérieuse, Raphaël se met à discuter avec lui. Il finit même par lui avouer sa volonté de se donner la mort. À ces mots, le marchand lui désigne une peau d'animal accrochée au mur, dont la taille avoisine celle d'un renard.
« Regardez cette peau de chagrin !»
Elle a été prélevée sur un onagre, c'est-à-dire sur un âne sauvage, mais son aspect est très singulier. Elle irradie de rayons lumineux. Le jeune homme est fasciné. Il s'en saisit pour mieux l'observer. Il remarque l'inscription en langue arabe qui est gravée sur le cuir et il parvient à la comprendre.
Si tu me possèdes, tu posséderas tout, mais ta vie m'appartiendra. Dieu l'a voulu ainsi. Désire et tes désirs seront accomplis, mais règle tes souhaits sur ta vie. À chaque vouloir, je décroîtrai comme tes jours. »
Raphaël demande au vieil homme pourquoi il n'a jamais essayé les pouvoirs de ce talisman oriental. L'antiquaire lui explique alors.
« Cette peau de chagrin, c'est le pouvoir et le vouloir réunis. Le vouloir nous brûle et le pouvoir nous détruit. Avec le temps, j'ai appris que le chemin de la quiétude est celui du savoir. La pensée est la clé de tous les trésors. »
Le jeune homme est un brin sceptique et moqueur. Il ne tient pas compte des mises en garde de l'antiquaire et se dit qu'il n'a rien à perdre à essayer.
J'avais résolu ma vie par l'étude et par la pensée, mais elles ne m'ont même pas nourri. À présent, je veux un dîner royalement splendide, que mes convives soient jeunes, spirituels et sans préjugés, joyeux jusqu'à la folie. Que les vins se succèdent, toujours plus incisifs, toujours plus pétillants, et soient de force à nous enivrer pour 3 jours. Que cette nuit soit parée de femmes ardentes. Le vendeur éclate de rire.
Croyez-vous que mes planchers vont s'ouvrir tout à coup pour donner passage à des tables somptueusement servies et à des convives de l'autre monde? Non, 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 jeune étourdi. Vous avez signé le pacte, tout est dit. Maintenant, vos volontés seront scrupuleusement satisfaites, mais aux dépens de votre vie. Le cercle de vos jours, figuré par cette peau, se resserrera suivant la force et le nombre de vos souhaits, depuis le plus léger jusqu'au plus exorbitant. Après tout, vous vouliez mourir. Eh bien, votre suicide n'en est que retardé.
Un peu déconfit par ces paroles, le jeune homme formule un second vœu.
« Je désire, pour me venger d'un si fatal service, que vous tombiez amoureux d'une danseuse !»
Ayant glissé la peau de chagrin dans sa poche, il s'enfuit de la boutique. À peine sorti, le jeune homme tombe sur 3 de ses amis. Ils se réjouissent de le rencontrer. Ils se demandaient bien où il était passé depuis plusieurs jours. Ils étaient en fait en chemin pour se rendre chez Taillefer, un banquier qui a décidé de fonder un nouveau journal. Ce canard aurait pour but et ambition de satisfaire les mécontents de la révolution de juillet 1830 sans nuire au nouveau gouvernement national du roi citoyen Louis-Philippe. L'un des garçons, prénommé Émile, est particulièrement enthousiaste.
« Allez, nous t'emmenons à ce dîner. Il faut que tu y sois pour prendre ta part dans ce projet. Tu pourrais même diriger le journal, qui sait ?»
Dans l'hôtel particulier luxueux de Taillefer, les discussions politiques et philosophiques vont bon train. Pendant le banquet, le vin coule à flot et des courtisanes apparaissent à la fin du repas. L'orgie est complète et le premier vœu de Raphaël est ainsi accompli. L'alcool délie les langues. Raphaël et Émile engagent alors la conversation avec 2 courtisanes, Aquilina et Euphrasie, dont la beauté ne les laisse pas indifférents. Elles expliquent comment elles usent de leur charme pour lutter contre l'asservissement auquel la femme est soumise dans cette société moderne. Quant à Raphaël, il finit par avouer à ses amis qu'il comptait se suicider ce soir même. Choqué de cette révélation, Émile insiste pour en connaître les raisons. Raphaël soupire. Si tu connaissais ma vie. Il faut croire que des litres de vin et de punch lui offre une étrange lucidité sur son existence et le rendent très loquace. Raphaël raconte les premières années de sa vie. Son enfance n'a pas été joyeuse. Ayant perdu sa mère à 10 ans, il a été élevé par son père, qui se montrait autoritaire et froid. Il n'a eu pour seule ambition que son fils étudie le droit afin qu'il puisse défendre leurs intérêts financiers menacés par la Restauration, et ainsi préserver l'honneur de leur famille. Malheureusement, un décret impérial a réglé définitivement leur sort et les a condamnés à la ruine. Raphaël a été contraint de vendre les biens qu'il avait hérités de sa mère et n'a pu sauver que l'île sur la Loire où elle est enterrée. Quelques mois plus tard, son père est mort de chagrin, dévasté par le triste avenir qu'il laissait à son fils. Pourtant, à cette époque, Raphaël ne se laisse pas abattre. Il est persuadé d'être promis à une grande destinée. il décide de vivre pauvrement pour se consacrer pleinement à l'écriture de deux grandes œuvres. Il les cite à ses amis, même s'ils ont déjà eu le loisir de les lire.
D'abord, une comédie qui devait, en peu de jours, me donner une renommée, une fortune et l'entrée de ce monde où je voulais reparaître en homme de génie. Ensuite, la théorie de la volonté, ce long ouvrage pour lequel j'ai appris les langues orientales, l'anatomie, la physiologie, et auquel j'ai consacré la plus grande partie de mon temps.
Raphaël explique s'être installé dans une chambre minuscule, dans un hôtel du quartier latin, où il vit reclus et travaille sans relâche, se privant de goûter aux réjouissances de la vie parisienne. La gérante de l'établissement, Madame Godin, le prend en affection, tout comme Pauline, sa charmante fille de 16 ans. Elles aussi sont dans une situation misérable depuis que le père de famille a été porté disparu lors de la défaite de l'armée napoléonienne. Pour les remercier des multiples services qu'elles lui rendent, Raphaël propose de parachever l'instruction de Pauline. Dès lors, naît une grande amitié entre Raphaël et Pauline. Elle est belle, intelligente, douce et dévouée. Bref, la femme parfaite. Mais Raphaël, qui ne conçoit pas l'amour dans la misère, ne parvient pas à la considérer autrement que comme une sœur. Il la compare à l'héroïne du conte Peau d'âne. Tous ses charmes disparaissent derrière son apparente pauvreté. Au bout de 3 années de cette vie ascétique, Raphaël rencontre Rastignac, un homme aimable et séduisant, un véritable opportuniste qui tente de le dissuader de travailler. Selon lui, ce n'est pas comme ça que l'on réussit. Il faut aller chercher la protection et le soutien des gens fortunés de la haute société. Dans cette optique, Rastignac lui présente la comtesse Fedora, une jeune femme qui n'a pas d'égal dans tout Paris au vu de sa richesse, de son raffinement et de sa beauté. Elle suscite la curiosité, car elle repousse tous les amants et personne ne connaît vraiment son histoire. Comme tous les autres, Raphaël est fasciné.
J'ai été séduit par cette femme, enivré par son luxe, chatouillé dans tout ce que mon cœur avait de noble, de vicieux, de bon et de mauvais. J'étais bien résolu à séduire Fedora. Ce cœur de femme était un dernier billet de loterie chargé de ma fortune.
Au fil de leur rencontre, Raphaël tombe définitivement amoureux d'elle, follement, désespérément. Et malgré la précarité de sa situation et sa faible rente, il parvient tant bien que mal à trouver des parades pour lui faire croire qu'il vit dans le même luxe qu'elle. Fedora le laisse faire sa cour, profite de leur sortie, de leur rencontre, puis elle finit par se lasser et elle l'évince. Pour Raphaël, vous l'imaginez bien, c'est la douche froide, puis la descente aux enfers. Lui qui a mené jusqu'ici une vie studieuse et vertueuse se laisse entraîner corps et âme dans la débauche. Il espère en fait susciter l'intérêt et le repentir de Fedora, mais elle reste complètement indifférente. Après tout, lui qui n'aimait pas Pauline pauvre, Fedora riche, n'avait-elle pas le droit de repousser Raphaël ? Voilà donc comment ce jeune homme s'est retrouvé tout à la fois ruiné et désespéré. Voilà pourquoi il en était venu à jouer sa dernière pièce d'or et à se résoudre à en terminer avec la vie. Voilà toute l'histoire qui l'a amené à entrer chez ce drôle d'antiquaire. Raphaël interrompt son récit. Il repense soudain à la peau de chagrin. Il la tire fébrilement de sa poche. La soirée qu'il vient de vivre lui a démontré qu'elle pouvait vraiment accomplir ses désirs. Tout excité, il explique le pouvoir de ce talisman à son ami Émile. Comme ce dernier ne le croit pas, Raphaël fait devant lui le vœu de disposer d'une énorme somme d'argent.
comme son ami continue de se moquer, il trace le contour de la peau sur un linge. Dès le lendemain, un notaire vient le trouver et lui apprend qu'il est le seul et unique héritier d'un oncle qui avait fait fortune en Inde. Hébété, Raphaël ressort la peau de chagrin et l'étend sur le linge pour comparer. Et c'est indéniable, elle a rétréci. Raphaël, devenu très riche, s'est installé dans un superbe hôtel particulier rue de Varennes. Malgré ce luxe, il vit de nouveau retiré du monde et de la société. Il n'a pour seule compagnie qu'un vieil intendant dévoué appelé Jonatas. Le monde lui appartient. Il peut tout, mais ne veut plus rien. Il est tyrannisé par le pouvoir du talisman, terrorisé à l'idée d'exprimer un désir sans le vouloir vraiment. Un jour pourtant, Jonatas fait monter chez lui Porriquet, l'un de ses anciens professeurs qui vient solliciter son aide car il a perdu sa chair. Lassé par son flot de paroles, pressé de se débarrasser de lui, Raphaël répond sans réfléchir.
« Eh bien, mon bon père Porriquet, je n'y puis rien, rien du tout, et je vous souhaite bien vivement que vous réussissiez. »
Il s'interrompt soudain et pousse un grand cri. Accroché au mur, devant lui, fixé sur son linge détouré, la peau de chagrin vient encore de rapetisser. Le soir même, pour se changer les idées, Raphaël se rend au théâtre des Italiens. Là-bas, il croise un vieillard au bras d'une charmante jeune femme. Il les reconnaît, amusé. Il s'agit bien de l'antiquaire, accompagné d'Euphrasie, la courtisane. Raphaël se souvient du vœu qu'il avait formulé en sortant de la boutique. Et c'est vrai qu'il savoure sa vengeance. Soudain, une femme sublime pénètre dans la loge de Raphaël. Une femme qui attire tous les regards. C'est Pauline. Stupéfait de se retrouver, il se donne rendez-vous le lendemain à midi. Une fois rentré chez lui, Raphaël saisit son talisman et s'écrie « Je veux être aimé de Pauline !» Mais à sa grande surprise, la peau reste intacte. Elle ne peut sans doute pas réaliser un désir déjà accompli. Pauline est devenue immensément riche suite au retour inespéré de son père. Désormais, Raphaël peut pleinement succomber à son charme. Ils se déclarent mutuellement leur amour et veulent se marier au plus vite. Quand Raphaël prend conscience de la soudaine et complète réalisation de toutes ses espérances, il ne peut s'empêcher de prendre peur. Dans un mouvement de rage et de désespoir, il va jeter la peau de chagrin au fond d'un puits. Ensuite, il se laisse goûter à la douceur de vivre auprès de Pauline. Hélas, un jour, l'un des jardiniers apporte à Raphaël une drôle de plante marine, qui n'est autre que le reliquat de la peau de chagrin, grande d'à peine 16 cm carrés. Pétrifié, Raphaël comprend que l'impitoyable pouvoir du talisman a subrepticement continué de sceller son sort. C'est désormais une question de vie ou de mort. Il doit trouver un moyen de stopper l'inexorable rétrécissement de cette peau. Il rencontre des savants, d'abord un zoologiste qui le renvoie vers un mécanicien. La peau est passée dans une presse pour tenter de la distendre, mais elle casse la machine et en ressort indemne. Un chimiste essaye de la dissoudre avec toutes sortes de substances, en vain. Les lames de rasoir se brise sur elle. Les décharges d'électricité ne font même pas roussir ses poils. La science montre ses limites. Les savants sont apeurés par ce drôle d'objet. Peu de temps après, Pauline fait remarquer à Raphaël qu'il a dans son sommeil une petite toux sèche, inquiétante. Affolé, Raphaël convoque 4 médecins. Après l'avoir examiné, il se retire pour se concerter. Le diagnostic n'est pas unanime. L'un d'entre eux, qui a aperçu la peau de chagrin et en connaît la légende, ose se prononcer.
Alors, écoutez, selon moi, il y a monomanie, hein. Le malade est sous le poids d'une idée fixe. Pour lui, cette peau de chagrin se rétrécit réellement. Peut-être a-t-elle toujours été comme nous l'avons vu, mais qu'elle se contracte ou non, elle devient chez lui l'objet de toutes ses angoisses.
Les autres ne sont pas forcément d'accord, mais après de longs débats, l'un d'entre eux souligne un point essentiel.
« Ce monsieur a 200 000 livres de rente. Ces monomanes-là sont rares et nous leur devons au moins un avis. Il est malade, le fait est incontestable. Il lui faut un traitement quelconque. »
Le collège de médecins conseille ainsi à Raphaël une application immédiate de sangsue à l'estomac, un régime diététique et une cure thermale en Savoie ou en Auvergne. Comme il s'affaiblit de jour en jour, Raphaël n'a d'autre choix que d'essayer. Il se rend à Aix, sans Pauline, mais au sein de l'établissement où il fait sa cure, on le traite comme un paria. On cherche à le chasser. Un jeune homme va même jusqu'à le provoquer en duel. En tirant au hasard, Raphaël atteint son adversaire, en plein cœur. Il regarde alors la peau de chagrin pour voir ce que lui coûte une vie humaine. Elle s'est réduite à la taille d'une feuille de chêne. Le soir même, il arrive au Mont d'Or. Il est émerveillé par la beauté de la nature. Au cours d'une promenade, il rencontre un jeune garçon et son grand-père, âgé de 102 ans, tout de même, encore frais comme un gardon, et il en est fasciné. Il s'installe au sein de cette famille auvergnate, dans leur maison perchée dans la montagne. Il y goûte les plaisirs d'une seconde enfance, un bien-être extraordinaire qui calme ses inquiétudes et apaise ses souffrances. Malheureusement, son serviteur Jonatas vient perturber cette douce retraite en demandant de ses nouvelles comme d'un malade en fin de vie. Dès lors, la pitié qu'il inspire à ses hôtes lui saute aux yeux. Elle lui devient insupportable et il repart pour Paris. Raphaël avait caché à Pauline les lieux de son exil. Durant tout ce temps, il ne lui avait même donné aucune nouvelle. Alors, quand elle le retrouve, il lui doit bien une explication. Il lui confie enfin le terrible secret de la peau de chagrin. En voyant sa réaction, belle de terreur et d'amour, il est pris d'un dernier désir incontrôlable de la posséder. Pauline comprend que cette ultime tentation est ce qui va le tuer. Elle court s'enfermer dans une autre pièce. Là, elle tente de se suicider pour lui permettre de vivre. Complètement dément, Raphaël parvient à forcer la porte. Il attrape Pauline et dans une dernière étreinte, il expire sur son sein. Voilà pour ce résumé de La peau de chagrin, qui est l'un des plus célèbres romans d'Honoré de Balzac, paru en 1831. S'il est considéré aujourd'hui comme l'un des plus grands romanciers français, au cours de sa vie, Balzac n'a pas connu que des réussites, loin de là. Après avoir abandonné sa carrière juridique pour devenir éditeur, puis imprimeur, il fait faillite. Et c'est son endettement qui le pousse à écrire. Au début, il se fait connaître en publiant ses textes dans la presse, au format feuilleton. C'est sans doute pour cette raison que Balzac n'hésitait pas à écrire de longues pages de description, puisqu'en fait, il était payé à la ligne. La peau de chagrin ne fait pas exception. Ce roman fantastique est assez dense et il a su susciter l'intérêt des lecteurs avant même sa parution, au moyen de longs extraits publiés dans les journaux. Enfin, il faut surtout retenir que cette œuvre est une pièce clé de la comédie humaine, une série de romans dans lesquels on retrouve certains personnages d'une intrigue à l'autre. Balzac lui-même l'a définie comme la peinture de la société de son époque. À sa mort, en 1850, ce projet monumental compte plus de 90 romans et une vingtaine d'ébauches inachevées. Et voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode du Meilleur Résumé. Comme d'habitude, nous vous invitons à lire cette œuvre par vous-même et à nous encourager en nous mettant 5 étoiles et un superbe commentaire. Merci pour votre écoute et à très bientôt.
Cet épisode a été coécrit par Candice de Gatine, Gabriel Massé et Loïc Landreau. Il vous a été présenté par Loïc Landreau. C'est une production du Studio Biloba. Plus de podcasts à découvrir sur studiobiloba.fr.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.